pause déjeuner. Mathis vient d'arriver, il est prêt pour jouer. C'est ludique, 100% jeu de société.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique, on est le vendredi 15 novembre, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans la seule émission consacrée aux jeux de société quotidienne à la radio, c'est simple, il n'y en a pas d'autres. Aujourd'hui on va parler de l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est quoi l'intelligence artificielle? Eh bien on va en parler autour du jeu AI 100% humain. Et je serai en deuxième partie d'émission avec Anne-Catherine d'Explorate. Voilà, eh bien C'est Ludique, ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Matt pour t'inviter à jouer. C'est ludique, encore plus de nouveautés.
Et au menu aujourd'hui, c'est AI 100% humain, un jeu de Renaud et Pierrick Libralesso, illustré par Vidou. Ce jeu de construction de tableaux et de draft à partir de 14 ans pour un 6 joueurs est édité par Explorate. Votre but est d'améliorer votre intelligence artificielle pour faire un maximum de points, mais aussi de répondre aux objectifs des deux manches. On fera 7 tours par manche. Alors au niveau de la mise en place, on va poser le plateau score. On tire 2 cartes objectifs, une pour la phase 1 et une autre pour la phase 2. Chaque joueur reçoit une carte de départ intelligence artificielle ainsi que 3 aides de jeu et son pion. Avant de débuter à jouer, vous allez recevoir 4 cartes pour faire évoluer votre IA. Vous en garderez 2 que vous mettrez dans votre réserve. Ensuite, tous les joueurs vont recevoir 7 cartes. Voilà, et bien vous êtes prêt à jouer. Tous les tours sont divisés en 3 parties et se jouent simultanément. La création de la réserve, le draft et la pose de la carte dans son jeu, puis bien sûr le calcul des points. Mais alors comment on joue? La création de la réserve permet en gros de ne pas drafter ces cartes-là. On peut les mettre de côté et on pourra les jouer plus tard. Parmi les cartes que vous avez en main au début de votre tour, choisissez-en une que vous ajoutez à votre réserve. Vous pouvez soit choisir une carte car elle va vous permettre de scorer un petit peu plus tard, ou parce qu'elle vous intéresse tout de suite car elle va comboter avec une autre carte parce qu'elle va aussi peut-être empêcher votre adversaire de faire des points et vous n'avez pas envie de lui donner. Une fois choisi, vous passez les cartes qu'il vous reste au joueur suivant. Selon la manche, vous les passez soit à droite, soit à gauche et vous récupérez le paquet de votre voisin. Mais pour le moment, vous ne le touchez pas. Vous allez choisir une des 2 cartes de votre réserve pour la jouer et l'ajouter pour construire votre tableau. Quand tout le monde a choisi sa carte, on la révèle et on la place de façon adjacente à une carte déjà posée en ne dépassant pas 3 lignes et 5 colonnes. Il ne vous reste plus qu'à marquer les points en fonction de la carte posée. Il y a énormément de possibilités en ligne, en colonne, par couleur, dans le tableau, dans celui du voisin, par les valeurs, par les connecteurs des cartes. Vous allez marquer des points dans tous les sens. À vous forcément de bien placer vos cartes pour comboter un maximum. Allez, 2 exemples, ça peut être 2 points par carte de couleurs différentes dans la rangée du milieu, ou 6 points si vous avez 3 cartes bleues. Tous les symboles sont super bien expliqués sur vos aides de jeu et toutes les cartes sont expliquées dans le livret. Alors attention, on ne marque pas forcément à chaque fois. Certaines cartes, les noires, permettent de prendre les points. Vous ne regardez pas votre tableau, vous regardez celui de votre voisin et vous marquez les points en conséquence. On fait ça 7 manches et plus votre tableau va s'agrandir et plus vous aurez la possibilité de marquer des points. Mais ne perdez pas l'objectif de fin de manche qui lui vous rapporte aussi des points. Et ensuite on recommence, on redistribue cette carte et on va passer à la deuxième manche. Les règles sont les mêmes sauf le sens du draft. Vous oubliez l'objectif 1 et on passe à l'objectif 2. Et en fin de partie, n'oubliez pas l'objectif de votre carte IA parce que vous en avez un aussi. Celui qui a le plus de points l'emporte. Vous avez aussi une variante de joueur, je vous laisserai découvrir. Alors ce que j'en pense de AI, dans AI, il y a de la symétrie dans le jeu car on va jouer avec une AI différente. Ce que j'aime, c'est que l'on joue tous en même temps. Et avec ce système de réserve, on peut garder des cartes pour les jouer plus tard et trouver le meilleur moment pour la jouer. Et puis même si chacun construit son tableau, il y a de l'interaction. Alors il y a beaucoup de symboles à assimiler, mais les aides de jeu sont là pour ça. C'est un jeu qui conviendra aux joueurs, mais pas seulement. Les règles ne sont pas très compliquées à assimiler pour des joueurs occasionnels. Par contre, c'est sûr, votre cerveau va chauffer et vous ne pourrez pas demander de l'aide à ChatGPT. Une très belle surprise à découvrir au milieu de toutes ces sorties de fin d'année. Voilà, donc ça s'appelle AI 100% humain et on continue d'en parler dans un instant avec Anne-Catherine d'Explorate.
Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, les jeux c'est magique.
Mais bien sûr que les jeux c'est magique et aujourd'hui on parle de AI 100% humain et je suis avec Anne-Catherine d'Explorate. Bonjour Anne-Catherine.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors la dernière fois que tu étais intervenue sur l'antenne, c'était pour Fédération. Alors avant de parler de AI, Fédération, je suppose, poursuit sa route.
Oui, la fédération poursuit sa route, tout à fait, avec toujours des très bons retours à Essen. Encore, on a vraiment des joueurs fidèles qui viennent nous voir, qui nous disent combien ils aiment le jeu et qui l'apprécient vraiment. Et donc oui, on travaille sur une extension au final, Dimitri et Mathieu ont eu des idées et on teste, on va faire des portes ouvertes à la maison pour proposer aussi de jouer pour les Lillois. Donc ça avance aussi sur Fédération.
Oui, puisqu'on rappelle que vous êtes dans le nord de la France. Hein.
Oui, tout à fait.
Justement, Explorer ne sort pas beaucoup de jeux. Si je ne dis pas de bêtises, entre Fédération et AI, il y a eu deux jeux, Fruit to Play et Robotrick. Est-ce que c'est un choix ?
Oui, c'est un choix, c'est-à-dire que c'est l'envie d'avoir des jeux qui sont finalisés, aboutis, et puis on est une petite équipe, donc on peut pas non plus sortir trop de jeux. Toujours notre choix, c'est de pouvoir proposer des expériences ludiques, des expériences qui peuvent être différentes, hein, puisqu'on a dans notre gamme aussi bien des jeux familiaux que des jeux plus experts. Avec Robotrick, on a fait notre première localisation parce qu'on trouvait que c'était vraiment un jeu japonais qui apportait quelque chose de nouveau et qui permet à 3 joueurs de jouer un jeu de pli qui est vraiment exceptionnel. Donc voilà, on fait ces choix-là sur des choses qui nous animent et vraiment proposer des expériences ludiques différentes aux joueurs.
C'est comme ça que tu définirais la ligne éditoriale d'Explorate aujourd'hui ?
Oui, il y a ce côté-là, vraiment proposer une expérience ludique, proposer des jeux rythmés, des jeux où on a du choix, beaucoup de choix, hein, où on ne sait jamais si on fait exactement le bon choix, mais voilà, ça nous mène à réfléchir et à se dire, à cet instant T, je pense que je fais le meilleur choix. Donc voilà, c'est vraiment des jeux qui vont apporter des dilemmes, des propositions de stratégies différentes pour gagner, du rythme et une expérience à partager autour de la table et à faire partager à ceux qui aiment jouer.
Alors la plupart des jeux, des gros jeux passent par Kickstarter. Est-ce que c'est compliqué de faire autrement ? Ça permet aussi d'ajouter des choses contrairement aux versions boutiques ?
Alors nous, les Kickstarter qu'on fait, on le fait pour des jeux et pour donner une visibilité d'Explorate à l'international.
D'accord.
À aujourd'hui, c'est important pour une société, une maison d'édition, d'être également présent à l'international. Donc il faut faire connaître ces jeux et la plateforme de Kickstarter est une bonne façon de le faire.
D'accord.
Et après, ça permet également de proposer des choses qu'on n'aurait pas pu faire dans une boutique parce que plus cher, parce que petite quantité. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait aussi pour AI en proposant tout de suite quelque chose d'un peu innovant. On a proposé une extension qui est à la fois composée d'un matériel et c'est sur ce matériel, un tapis néoprène, qu'on va proposer l'extension. Donc voilà. Voilà, on a essayé, et ça on ne pouvait pas le jouer en boutique, donc voilà, on a aussi utilisé le canal de Kickstarter pour cette raison, et toujours pour qu'il y ait un confort, une expérience ludique différente et originale avec nos jeux.
Alors on va parler donc d'AI, raconte-nous un petit peu l'histoire de ce jeu, comment vous avez rencontré les deux auteurs ?
Oui, alors Renaud et Pierrick, Libre à l'Esso, c'est déjà une belle histoire, Tout d'abord, ils étaient fans de Big Monster. Donc, les toutes premières fois qu'on les a rencontrés, c'est à Ludinor quand on présentait le prototype de Big Monster ou la toute première boîte. Et donc, on a encore une photo d'eux avec Dimitri. Nous l'ont partagé d'ailleurs peu de temps après qu'on ait signé le contrat. Donc, ça, c'était la première anecdote. Et ensuite, on a Dimitri les a rencontrés à Cannes. À Cannes, c'est souvent l'occasion pour les auteurs de présenter leurs prototypes. Et donc, ils souhaitaient rencontrer Dimitri par rapport à leur jeu qui proposait un draft avec réserve et scoring immédiat. Et ça leur, voilà, ils avaient dans leur souvenir Big Monster, le jeu de draft. Ils savaient qu'on appréciait ce type de mécanique. Et donc, ils ont vraiment eu envie de le présenter à Dimitri. Et cette mécanique de draft avec réserve, scoring immédiat, nous a séduit et puis le jeu est passé par beaucoup d'étapes de développement. Dimitri et Renaud Pierrick ont passé du temps et on a abouti à un jeu un peu différent de ce qu'ils proposaient initialement,
D'accord.
mais toujours avec un cœur de mécanique qui nous avait séduit.
Alors pourquoi avoir appelé ce jeu AI 100% humain ? Parce que finalement l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup dans le domaine du jeu de société.
Oui, Alors, ben, déjà, ça a collé avec notre mécanique parce que dans la plupart des jeux de construction de tableaux, le scoring se fait en fin de partie, une fois que tout le tableau est construit.
C'est
donc
vrai.
Un tableau, souvent, c'est une grille formée de lignes et de colonnes. Et donc ici, le scoring se passe au moment où on pose la carte. Donc l'idée est venue de dire, bah, c'est un peu comme un programme informatique, on va faire des tests, on va proposer des cartes de développement à notre intelligence artificielle. Elle connaît la condition, immédiatement on marque les points, parce que c'est connu par l'intelligence artificielle et elle monte en puissance. Donc elle a de plus en plus de points. Et donc ça calait bien de pouvoir justement associer ce scoring immédiat avec ce thème d'intelligence artificielle. Et puis c'était un petit clin d'œil, et ce clin d'œil, on l'a poussé dans le titre, puisque ben, derrière le jeu, on retrouve un illustrateur, Victor Dunon, on retrouve des auteurs,
oui.
du développement avec Dimitri, la maison d'édition. En général, du graphisme, et donc on l'a poussé avec la petite baseline à AI 100% human.
Alors dans AI, ce que tu viens de dire, hein, on score tout de suite, mais aussi il faut essayer de préparer ses coups et garder les bonnes cartes, parce que des fois si on score tout de suite, on va pas avoir beaucoup de points.
C'est vrai. Donc, il va proposer des dilemmes, puisque effectivement, tu as trois temps où on va scorer. Il y a le scoring immédiat, quand on pose la carte sur son plateau de jeu, dans la construction du plateau. Ensuite, il y a un scoring à chaque fin de manche. C'est un jeu assez rapide, on va jouer en deux manches. À chaque fin de manche, il va y avoir des conditions posées par l'IAMR, qui va nous dire, il faut avoir des colonnes de même couleur, par exemple. Il faut avoir des cartes dont la somme fait 6. Donc, on va avoir deux conditions qui sont connues en début de partie par tous les joueurs et qui vont apporter une autre contrainte. On va développer son tableau de façon aussi à respecter ces contraintes de l'IAMR, de façon à avoir des points supplémentaires. Et enfin, on a un troisième moment où on va scorer, c'est en toute fin de partie, quand notre tableau est complet. À ce moment-là, chaque joueur a sa propre carte d'IA qui va elle-même proposer des conditions de points supplémentaires. Et pour ça, il faut à nouveau avoir respecté la condition. Ça peut être, par exemple, une paire de cartes rouges et violettes tout autour de son IA. Ça peut être la couleur la moins représentée de son tableau multipliée par la plus représentée. Donc, on va avoir ces petits dilemmes parce que, comme tu le dis très justement, bah, le petit plaisir, ça va être de poser la carte. Il va nous faire beaucoup de points au moment où
on
la score, qui va nous permettre de faire la colonne de la même couleur. Et voilà, donc c'est vraiment ça qui va entrer en compte et qui va nous encourager, essayer d'utiliser au mieux sa réserve. Parce que le dernier point important aussi dans le jeu, c'est qu'on fait du draft. Donc tout le monde connaît le draft, on va passer une carte à son voisin, on va choisir une carte pour soi, passer les cartes restantes à son voisin. Ici, on va ajouter la carte qu'on a choisie à une réserve. On a déjà deux cartes en main. On ajoute la carte choisie à sa réserve. Et ensuite, on choisit parmi les trois. Donc, tu vas peut-être prendre une carte parce que tu te dis, dans quelques tours, celle-ci, je vais pouvoir bien la scorer parce que
j'ai
bien préparé. Elle me demande d'avoir des cartes vertes et jaunes autour de moi. Eh bien, je vais préparer et je vais venir mettre des cartes qui vont peut-être me donner moins de temps à l'instant où je les mets. Mais combinées avec la carte que je vais poser au bon moment, à ce moment-là, je vais scorer plus de points.
Ouais.
Donc, voilà, on va préparer et la réserve a vraiment c'est vraiment cette zone tampon qui va nous permettre de faire ça et de préparer nos enchaînements au mieux et de faire, pose ma carte. Je fais 8 points et en plus, je me positionne bien pour mes objectifs de fin de match.
Souvent les deux derniers tours, tu peux me passer ce que tu veux. J'ai déjà mes cartes dans ma réserve. Je sais ce que je vais faire.
Oui, tu t'es entraîné à Valvenir.
C'est ça. Mais les scores sont très serrés. Je pensais pas que ça allait être aussi serré à chaque fois. On peut faire la course en tête et puis d'un seul coup se faire dépasser pour 2 points.
Oui. C'est vrai. Écoute, pour ça, on a énormément joué. On a pris plaisir à développer les cartes IA centrales, pouvoir proposer pareil, des petites choses différentes. Parfois, on a énormément joué, équilibré, de façon à ce qu'il y ait vraiment ce petit suspense. Et la piste de score qui est au centre, elle encourage à ça. Elle nous permet de bien visualiser où chacun en est. Et hop, on repasse devant. Et hop. Donc, ça, c'est ce qu'on propose avec le jeu.
Quels sont les retours sur le jeu? Le jeu est sorti fin octobre.
Oui.
Et alors, tu as déjà eu des retours?
Alors, les retours qu'on a eu le plus, c'est à Essen, parce que là, on est en contact direct avec les joueurs.
Bien
Après,
sûr.
Là, c'est un peu plus... c'est un peu parsemé partout en France, donc on a un petit peu moins les retours en direct des joueurs, mais à chaque fois qu'on a l'occasion en festival ou en asso de le proposer, on a vraiment cette satisfaction des joueurs de construire leur tableau, de monter en puissance, donc la mécanique de cette draft avec réserve et scoring immédiat est vraiment très très apprécié. Donc on a eu ces bons retours, on a eu ces bons retours aussi sur SN. Hein, on a vraiment on a été dans le fair play. Donc ça c'est un des classements.
Oui, c'est le classement.
Voilà, donc pareil dans le BGG, dans le top de BGG aussi pendant Essen, on était 11e. Donc vraiment le jeu, il a vraiment fait parler de lui. Maintenant, il faut le laisser un petit peu de temps,
hein,
que les joueurs puissent y jouer, le partager, continuer à le découvrir. On a également un très bon mode solo qui permet aussi d'aller construire un tableau en essayant d'avoir le plus de points de victoire possible, sachant que on va pouvoir choisir sa carte par une méthode, une autre grille qui va nous faire déplacer notre pion, et à chaque fois qu'on choisit une carte d'une couleur, on va déplacer le pion sur l'entête de couleur correspondant. Bon, c'est pas facile à expliquer, voilà, c'est il y a presque deux jeux en un.
D'accord.
Il y a la façon dont je vais prendre ma carte et après, bien sûr, comment je la place dans mon tableau. Donc ça, c'est vraiment aussi très malin et plaisant pour le jouer en solo, et aussi un mode de joueur qui plaît également. Donc on a beaucoup d'atouts dans le jeu.
C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, c'est quand même assez rare sur le marché.
Oui, c'est vrai. Et puis, on a une vraie dynamique avec le draft. Comme on joue tous en même temps, eh bien, finalement, à 6, on joue en moins d'une heure.
Oui.
Donc, c'est très, très bien aussi.
Et puis, si chaque joueur crée son tableau dans son coin, il y a pas mal d'interactions.
Alors oui, parce que on n'a pas parlé de nos cartes de hacking, évidemment, on est dans le domaine informatique, donc
eh oui.
Il va pouvoir se passer des choses avec les tableaux de nos voisins, sachant qu'on ne détruit jamais, on va pas voler des choses, mais on va profiter, si tu as fait des colonnes de même couleur, je vais peut-être pouvoir en profiter aussi, enfin voilà, donc ça c'est avec nos cartes de hacking, où on va regarder chez nos voisins de droite et de gauche, et on va prendre le score évidemment qui nous arrange le plus d'un des deux joueurs. Donc voilà, vraiment une belle proposition sur le jeu.
Alors ça s'appelle donc AI 100% humain, ça vient de sortir, donc c'est chez Explorate. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les cartons, Anne-Catherine?
Oui, alors juste un dernier mot, n'hésitez pas à regarder les petites vidéos aussi hein, sur notre chaîne YouTube. On a proposé plein de vidéos sur l'histoire du jeu, la rencontre avec les auteurs, etc. On vous parle des cartes qu'on préfère, etc. Donc là-dessus, il y a des belles ressources aussi en vidéo.
Alors justement, c'est quoi ta carte préférée?
À ma carte préférée, y en a une que j'aime bien, qui joue avec les couleurs violette et rouge. Et si tu as fait une colonne avec du rouge et du violet, tu marques 8 points immédiatement. J'aime
bien. C'est pas mal. Effectivement.
Elle se place bien.
Et aussi, chose importante, c'est que toutes les cartes sont expliquées dans le livret de règles. Parce qu'il y a des icônes, des choses comme ça, mais si on a un doute, hop, on va dans le livret de règles et on voit tout de suite, quoi.
Voilà. Et la dernière de couve du livret de règles explique vraiment la majeure partie des icônes. On a aussi la petite tête de jeu rappelée en 3 cartes au début de notre tableau. Donc voilà, il y a un exercice de grammaire, mais c'est vraiment à faire pour qu'après on ait une grande fluidité dans le jeu. Et déjà après une première manche, on est déjà plus à l'aise.
Ouais.
Donc voilà. Et sinon, oui, des projets, une nouvelle expérience qu'on veut proposer aux joueurs, un party game avec des mots.
Oui.
Donc là, on change encore de registre, on n'en avait pas.
Ouais.
Et celui-ci aussi, on l'a bien développé, il est en cours de fabrication, donc pour Cannes, si tout va bien.
Super.
Donc voilà, là, Bon, écoute, on aura l'occasion d'en reparler ben oui. à l'antenne. Mais...
J'ai pu le tester en plus, donc,
oui.
donc c'est plutôt sympa. N'oublie pas hein, la glace au caramel beurre salé, hein, c'est important pour les Bretons.
Écoute, on a corrigé la carte.
Ah bah super. Merci beaucoup Anne-Catherine.
Merci à toi Mathieu.
Et à bientôt.
À bientôt, très bon appétit à tous les auditeurs et puis à une prochaine.
Merci, salut.
Merci.